assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un protestant peut en cacher un autre. Pour cette émission, vous allez écouter un entretien enregistré avec le professeur André Gounel, où nous parlerons de son parcours de vie.
Bonjour à tous nos auditeurs, je reçois aujourd'hui André Gounel, ou plutôt André Gounel nous reçoit dans son bureau qui est plein de livres, des livres que lui-même a écrits ou des livres qu'il a lus. Alors André, tout le monde le connaît dans le protestantisme ou presque, né en 1933, pasteur, professeur de systématique à la faculté de théologie de Montpellier, membre du Conseil national de l'Église réformée de France pendant 12 ans, auteur d'une trentaine de livres, et je vais m'arrêter là dans la biographie, sinon on en aurait pour un certain temps. Alors bonjour André.
Bonjour.
Alors, ma première question, c'est la transmission de votre héritage protestant,
oui.
Puisque ici on se focalise sur les itinéraires. Alors ce qui a fait de vous le protestant que vous êtes, comme vous dites, vous êtes tombé dans le chaudron d'Obélix du protestantisme avec... une famille paternelle, la famille Gounel, et la famille maternelle, la famille Bré. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de votre famille?
Voilà, et ben, les Gounel, c'est des Cévenols, des purs Cévenols de la région du Vigan-Gange, là, exactement de la vallée de la Vis, des petits paysans devenus pasteurs, beaucoup. La famille Bré, c'est une famille des îles anglo-normandes, exactement de Jersey, Jersey-Guernesey. Et c'est une famille plutôt bourgeoise, disons bourgeoisie moyenne. Alors c'est deux familles très très différentes, hein, les Gounel très très implantées dans leur vallée Cévenole. La vie difficile, du côté de Jersey, c'est la mer, donc le grand large, enfin, et probablement une vie plus facile. Deux familles très différentes que, à première vue, on ne voit pas comment pourrait s'opérer la rencontre entre les uns et les autres, mais...
Mais ils se sont quand même rencontrés.
Ils se sont quand même rencontrés.
Ils ont rencontré votre mère.
Alors, ils ont en commun... un héritage protestant qui date du XVIe siècle. Et puis, ils ont en commun d'avoir été, dans le cours du XIXe, touchés par le réveil méthodiste. Il faut peut-être un peu définir là, les termes.
Expliquez-nous un peu d'abord ce qu'est le réveil.
Ouais. Alors, le réveil, c'est dans ce cadre-là, on appelle réveil le passage d'une religion qui est sincère, mais qui est... tempéré, modéré, conventionnel, un peu assoupi.
Victime de son succès, de l'implication dans la
République. Oui, qui est établi, enfin voilà, à une foi vive, intense, fervente, d'un assoupissement spirituel à un réveil spirituel fort. Et... il y a eu plusieurs mouvements de réveil au cours du 19e siècle, du 20e siècle. Le réveil méthodiste naît de l'action d'un pasteur au départ anglican, qui s'appelle anglais, John Wesley, qui est au fond sorti de son église, de sa chapelle, pour prêcher dans la rue, pour prêcher aux foules. Pour atteindre des milieux plus populaires et surtout pour atteindre les gens dans leur situation, là où ils en sont, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Et John Wesley a été à l'origine d'un grand mouvement de réveil qui a donné naissance au méthodisme. Le méthodisme.
Et alors, ce méthodisme, qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Alors, il est répandu surtout dans en Angleterre et aux États-Unis, moins en France. Et c'est un mouvement qui donne une très grande importance à la piété, à la vie intérieure, à la vie. Et qui, par contre, ne méprise pas ou ne dévalorise pas, mais c'est quand même pour lui moins important. C'est secondaire, le rite. Il n'est pas très attaché au rite, au rituel, au sacrement, tout ça.
Et à la lettre de la Bible, est-ce qu'ils sont fondamentalistes ?
Alors, 18e, 19e, c'est un peu anachronique de parler de fondamentalisme. Le fondamentalisme surgit au début du 20e siècle, juste avant la guerre 14-18 aux États-Unis. Ils sont très attachés à la Bible, ils sont nourris par la Bible, nourris par la lecture de la Bible, mais par contre, sur la lettre, ils ont une certaine largeur. C'est pas propre d'ailleurs au méthodisme. On a remarqué que Calvin, quand il cite la Bible, la cite souvent de manière approximative, ou bien qu'il n'hésite pas à dire que dans tel récit évangélique, la version de Matthieu est la bonne et que celle de Luc n'est pas bonne, ou réciproquement. Il n'a pas l'idée d'un texte tombé du ciel.
Ah, donc quand on oppose orthodoxie, mouvement piétiste et libéralisme, c'est pas forcément toujours sur la façon de lire la Bible.
Pas forcément.
Ah oui.
Pas forcément. La grande différence entre l'orthodoxie et les mouvements piétistes ou révivalistes, c'est que l'orthodoxie, le protestantisme classique, par classique j'entends celui du XVIIe siècle, est très attaché aux doctrines. La prédication est un enseignement, elle est conçue comme un enseignement. Et par contre, il y a peu de manifestations de piété, il y a peu d'affectifs. Par contre, le piétisme, le révivalisme, il y a une très grande importance de la piété.
Mais on est aussi dans les courants littéraires de l'époque.
Absolument, c'est le passage du classicisme au romantisme. L'héroïne de Corneille, Chimène, quand elle avoue un amour déraisonnable pour Rodrigue, lui dit « va, je ne te hais point ». Alors que l'héroïne Donna Sol, il me semble, de Victor Hugo, « vous êtes mon lion superbe et généreux », et puis voilà. Il y a donc là un changement, une importance beaucoup plus grande donnée à l'affectif, à l'émotion, à l'émotivité. Et ça a touché le protestantisme, ça a touché aussi le catholicisme de la même manière. Et Chateaubriand est caractéristique. Quand Chateaubriand écrit « Le génie du christianisme », et ça fait scandale à l'époque, dans les milieux catholiques. Il n'essaie pas de montrer, comme on l'avait toujours fait auparavant dans les apologies, que le christianisme est la religion la plus vraie, la plus rationnelle. Il essaie de montrer qu'elle est la plus touchante, celle qui émeut le plus. Et quand il décrit sa conversion, au sens que j'ai dit tout à l'heure, Chateaubriand a cette expression, c'est dans le supplément au génie du christianisme, caractéristique, j'ai pleuré, donc j'ai cru. Et effectivement, il y a une piété où on pleure énormément, que ce soit les pleurs amères de repentance, ou les pleurs de joie.
Oui, parce que j'allais vous dire, c'est un peu triste tout ça, si les méthodistes passent leur temps à se...
Oui, alors non, il y a des pleurs de joie aussi, et le méthodisme est précisément une piété qui n'est pas triste, une piété qui est joyeuse, une piété où on chante beaucoup. Alors, je précise, moi j'ai jamais été méthodiste, j'ai toujours été réformé, mais mes parents étaient absolument imbibés de piété méthodiste. Ils avaient été élevés dans le méthodisme, et c'était plutôt une piété gaie, une piété sereine, et puis marquée aussi par l'humour britannique.
Ah oui, d'accord. Et alors, comment le libéral que vous êtes, professeur de dogmatique, de systématique, comment comment vous jugez ce style d'émotivité? Est-ce que vous ne suspectez pas forme de je sais pas, d'enthousiasme trop superficiel?
Oui, il y a toujours eu chez les réformés un sens de polémique contre le spiritualisme ou l'illuminisme, en disant c'est la subjectivité qui l'emporte. Alors, ce qui caractérise, me semble-t-il, le méthodisme, mais aussi le libéralisme, c'est qu'en même temps que leur dimension romantique, ils ont une dimension d'héritage des Lumières. Ils ont été marqués par les Lumières, peut-être plus par les Lumières anglaises que les Lumières allemandes que les Lumières françaises. Les Lumières anglaises et les Lumières allemandes ne sont pas anti-religieuses comme les Lumières françaises. Et Wesley, par exemple, est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des sciences, qui s'occupe d'électrothérapie. Ça nous paraît d'ailleurs un peu curieux, mais enfin, c'est l'époque. Et dans le libéralisme, il y a les deux courants. Il y a la volonté de faire la synthèse. D'ailleurs, il est frappant de voir que des gens comme Vinet en Suisse ou comme Schleiermacher en Allemagne sont à la fois deux grands ancêtres du libéralisme et en même temps sont souvent réclamés par les piétistes parce qu'ils ont cette piété vive en même temps que la volonté d'avoir une réflexion rationnelle. Et ce qu'on appelle le libéralisme a hérité de ce double souci de vie intérieure, de subjectivité et puis de rationalité. Une rationalité très marquée à partir du XIXe siècle par Kant, par le kantisme. Kant qui lui-même est issu de milieux piétistes.
D'accord. Donc on retrouve finalement le libéralisme et le piétisme comme mouvement romantique, et puis l'orthodoxie qui est le troisième...
voilà, je dirais plutôt marqué par le romantisme que vraiment romantique. Alors, l'orthodoxie est beaucoup plus doctrinale, beaucoup moins attachée à la vie intérieure, encore qu'il y a eu des influences entre ces différents courants, et l'orthodoxie est beaucoup plus doctrinale. Et on oublie toujours qu'entre le piétisme et l'orthodoxie, il y a eu des conflits très durs au XIXe et au début du XXe.
Et est-ce que vous retrouvez donc ces trois courants dans les prédications d'aujourd'hui? Orthodoxie, libéralisme, piétisme, disons. Est-ce que vous êtes parfois déçu de ce que vous entendez?
Alors, je suis rarement déçu. Probablement, j'ai eu de la chance d'avoir toujours de bons pasteurs. Je n'étais pas toujours d'accord avec la prédication. J'ai quand même été quelquefois en colère, mais jamais, c'était pas nul. J'ai jamais été déçu ou j'ai jamais. Il arrive qu'il y ait des cultes décevants, mais.
Qu'est-ce qui vous mettrait par exemple en colère
Certains propos. Je pense à une prédication que j'ai entendue à Dijon d'un pasteur sur Abraham disant à ses paroissiens, vous êtes prêts à sacrifier vos fils. Ça me mettait dans une sombre colère. Mais personne ne le prenait au sérieux, pas même lui, enfin.
Ah oui, d'accord.
Ce qui me frappe dans la prédication que j'entends aujourd'hui, c'est que elle se réfère beaucoup plus que la prédication d'il y a 50 ans, quand j'ai commencé mon ministère, ou quand j'étais encore étudiant, par le recours au texte, par un travail à la fois historique et littéraire sur les textes. Des pasteurs qui citent les termes grecs, les termes hébreux, qui les expliquent, qui expliquent ce que veut dire tel ou tel mot en grec, qui quelquefois refont des traductions à eux du texte pour être plus proches. Alors autrefois, ça ne se faisait pas du tout. Je ne dis pas que les pasteurs ne faisaient pas un travail exégétique, comme on dit, sur le texte, mais ça n'apparaissait pas dans les prédications. La prédication était lisse. Tandis que là, tous ces débats, toutes ces recherches, tous ces efforts apparaissent. Et d'une certaine manière... Ça implique l'auditoire, oui. Ouais. Il est partie prenante au débat exégétique, oui.
D'accord. Et au niveau de la liturgie, vous avez constaté aussi des améliorations, des changements?
Alors, je trouve que les liturgies, quand j'ai débuté, étaient des liturgies assez figées. les moments de culte se succédaient dans un ordre toujours le même. Alors ça, l'ordre s'est resté. Mais c'était les mêmes textes. On avait un recueil de liturgie, qu'on appelait la liturgie verte, qui était inspirée en grande partie par Mercier, début du XXe siècle. Et on avait pour chaque moment deux ou trois textes au choix, des variantes de deux ou trois textes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de textes choisis par les pasteurs, des textes poétiques, des textes variants de dimanche en dimanche, des textes souvent très beaux. Avec un peu l'inconvénient qu'on se les approprie moins que les textes qu'on entendait dimanche après dimanche. Mais le texte qu'on entendait dimanche après dimanche, on l'écoute.
C'est un peu messe en latin ou...
Oui, on les écoutait dans une sorte de... J'ai un oncle qui disait liturgie léthargie, oui. Dans une sorte de somnolence.
On n'avait pas besoin de faire d'efforts pour comprendre,
voilà.
On sait par cœur.
Mais...
D'accord. Alors, nous allons écouter un morceau de musique que vous avez choisi, un morceau de Mozart, et puis nous nous retrouvons après ce morceau de musique. Alors maintenant, je voudrais revenir sur votre vocation de pasteur. Alors, qu'est-ce qui a déclenché votre vocation, même si on se doute que le fait d'être tombé dans le chaudron a eu quelque chose à voir?
Ben ça, il n'y a pas de doute. Hein. Famille pastorale, entourée de pasteurs, la question ne pouvait pas ne pas se poser à moi. Il y a dans le protestantisme, d'ailleurs, plusieurs dynasties pastorales, un peu moins maintenant que de mon temps. Il y a les Verniers, il y a les Bourguet, il y a les Cadier, il y a les Monod, il y a les Lénard, et j'en passe.
Heureusement qu'il y a un peu de sang neuf aussi, de temps en temps, par l'apport des...
Heureusement, actuellement, il y a beaucoup de sang neuf.
Oui.
Alors, il y avait là une sorte un peu d'aspect tribal, un peu de cousinage, même si les Gounelles, nous étions une dynastie tout à fait modeste et peu apparentée aux autres.
Ouais.
Et, ceci étant, moi je dis souvent, et je l'ai dit quand on m'interrogeait là-dessus, que le fait d'avoir été dans ce milieu, d'avoir été marqué par ce milieu, n'enlève rien à l'authenticité des expériences spirituelles. J'ai eu plusieurs amis, plusieurs camarades de faculté qui étaient aussi issus de destinées de lignées pastorales et qui sans doute ont rentré dans le pastorat sous la pression, je n'ai pas consciente et voulu, mais sous la pression du milieu. Et quand c'était pas authentique, bon, ils ont fait des études de théologie, puis ils ont fait autre chose. Ils ont été peut-être pasteurs quelques années, et puis ils se sont tournés ailleurs. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça a été toute la vie, toute leur vie. Et c'est un signe, c'est pas une preuve, il n'y a pas de preuve, mais c'est un signe de l'authenticité de ce qu'ils ont vécu jeunes.
Oui, c'est pas le passé qui éclaire l'avenir, mais c'est l'avenir qui justifie le passé.
Exactement, c'est l'avenir qui donne son sens au passé, oui.
Vous avez fait des études de philosophie.
Alors oui, je me suis vraiment décidé, j'avais toujours pensé, mais je me suis vraiment décidé pour le pastorat quand j'avais 16-17 ans. Et j'étais bachelier jeune, et mon père avait beaucoup tenu à ce que je fasse des études autres avant d'entrer en théologie. Alors j'ai un peu hésité entre l'histoire et la philosophie, puis j'ai choisi la philosophie. J'avais la chance d'avoir une bourse qui me permettait de faire des études de philo avant. Et j'ai donc fait un cursus philosophique jusqu'à la maîtrise. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais diplôme d'études supérieures de philosophie, avant de commencer mes études de théologie.
Et qu'est-ce que vous avez constaté entre le niveau des études de théologie et le niveau des études de philosophie, enfin de philosophie d'abord et de théologie ensuite?
Oui. Alors le passage a été assez rude, n'est-ce pas? Quand on arrive en philosophie, on a tout un passé littéraire, puis un passé philosophique avec la classe de philosophie, et puis à mon époque, la classe dite de propédeutique qui préparait à la licence. Et en philosophie, on rentrait tout de suite à un certain niveau, un certain niveau de spécialisation. Quand on est en théologie, on n'a pas cet arrière-fond. On a l'arrière-fond d'un catéchisme plus ou moins oublié, et il faut recommencer à zéro. D'ailleurs, autrefois, on ne parlait pas de licence en théologie, mais de baccalauréat en théologie, ce qui indiquait bien la nature de ces études. On arrive, il faut recommencer les langues. Alors, pas le grec, j'en avais fait au lycée, mais par exemple l'hébreu, réapprendre l'alphabet, réapprendre la grammaire élémentaire. Recommencer l'histoire d'un autre point de vue. Il faut réapprendre les textes, les livres bibliques, dans quel contexte ils ont été écrits, par qui, comment, comprendre pourquoi il y a quatre évangiles, ou plus exactement comprendre qu'est-ce qui distingue les quatre évangiles. Il y a quelque chose d'un peu élémentaire au départ. Et je reconnais que c'était un peu décevant, c'était un peu frustrant. Ma première année de théologie, je ne garde pas un très très bon souvenir. J'avais l'impression, après avoir été étudiant, à un certain niveau, j'avais fait un mémoire quand même, sur Spinoza, important, et de revenir à des exercices scolaires.
Et c'est pour ça que vous avez toujours voulu tirer la théologie vers le haut.
Voilà, alors pour moi, comme enseignant, c'était relativement facile, parce que j'enseignais la systématique, la dogmatique, si vous voulez, et que, évidemment, mais en Nouveau Testament, il faut que les étudiants apprennent le grec quand ils ne savent pas, l'Ancien Testament, qu'ils apprennent l'hébreu, c'est vraiment l'élémentaire qu'ils ont à réapprendre, et c'est un apprentissage qui était inévitable. Dans mon domaine, on peut très vite essayer d'entrer dans une réflexion plus exigeante.
Et c'est pour ça aussi que vos livres sont toujours à portée du grand public, même s'ils ont un niveau très fort de réflexion, ils sont quand même compréhensibles par le commun des mortels, ayant un peu de...
Alors, je crois que c'est la vocation même du théologien, et que le théologien n'y répond pas vraiment quand il devient un spécialiste qui écrit pour des spécialistes, un professeur qui s'adresse à d'autres professeurs. C'est la tentation, incontestablement, hein, de tout universitaire. Et le théologien est quand même au service du plus grand nombre, au service, il est là pour aider le pasteur dans son ministère, pour aider les paroissiens dans leur vie et dans leur réflexion de foi.
Et pour aider au rayonnement du protestantisme.
Exactement. Alors je dirais d'ailleurs un peu la même chose en dehors de tout contexte religieux pour les philosophes. J'ai reproché souvent à certains philosophes d'être des professeurs qui écrivent pour d'autres professeurs et qui oublient que la philosophie a aussi une tâche et une vocation civique, citoyenne. Alors il y a plusieurs philosophes de notre génération qui ont retrouvé ça. Je pense à Comte Sponville, je compte aux frères Ferry, frère ou cousin, je ne sais plus très bien Ferry. Je pense à Finkielkraut, à quelques autres, enfin. Mais il y a aussi ces professeurs qui vraiment écrivent pour d'autres professeurs.
D'accord, oui, oui. Et maintenant, je voudrais vous poser une question un petit peu différente. Bon, vous avez un âge certain ou un certain âge, je ne sais pas comment il faut dire pour être... enfin bon, vous avez donc vécu des évolutions. Au départ, vous étiez dans une certaine morale bourgeoise, protestante, puritaine, le couple, le sexe. Vous avez vécu la féminisation de la profession et les couples de même sexe. Comment vous avez vécu tout ça? Est-ce que ça a été difficile ou pas?
Alors j'ai évolué, difficile peut-être pas, non, mais j'ai évolué. C'est vrai qu'il y a eu toutes des séries de rencontres, de réflexions qui m'ont amené à m'élargir au départ sur une morale assez étroite. Je ne suis pas contre la morale, hein. Il faut de la morale, et il ne faut pas dire toujours du mal de la morale. Mais c'est vrai qu'il y a des morales étroites et des morales plus larges. Et probablement l'influence de Kant a joué. Mais aussi à jouer à côté des rencontres que j'ai pu faire. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose quand on suit un couple homosexuel que quand on en parle de manière théorique. J'ai toujours été frappé. La morale, la sexualité tient pas une très grande place dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y a quelques textes, mais pas énormément, c'est pas...
Et pourtant, l'Église s'en mêle, je ne parle pas de l'Église catholique, mais...
L'Église en est beaucoup mêlée, surtout à partir du 19e, qui est un âge tout à fait éthique.
Et donc, vous...
Mais j'ai été...
L'Église de se mêler...
J'ai été frappé par la réflexion d'un puritain américain qui écrit « Dieu aime les adverbes ». Alors, ça paraît un peu curieux à première vue, mais ce qu'il veut dire, c'est que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est pas tellement les substantifs. Les substantifs, ils disent que l'on est. On est professeur ou on est ignare. On est président de la République des États-Unis ou on est valet de ferme. On est reine ou princesse ou femme de ménage, femme d'entretien. On est blanc ou noir. Ça, peu importe. Ni juif ni grec, dit le Nouveau Testament d'ailleurs. Ce qui importe, voulait dire ce puritain, c'est comment on l'est. Est-ce qu'on l'est de manière généreuse, ouverte, attentive aux autres, ou bien est-ce qu'on l'est de manière égoïste, fermée et dure? Et cet Américain disait l'important, c'est pas ce qu'on est, c'est comment on l'est pour un chrétien. Et alors, il l'appliquait pas à l'homosexualité, à l'époque c'était pas pensable. Mais moi, je l'appliquerais volontiers en disant... L'important, c'est pas savoir si on est homosexuel ou hétérosexuel. L'important, c'est qu'on traite le partenaire avec respect, avec attention, avec un vrai amour pour lui, et pas simplement pour soi et pour son plaisir. Mais c'est aussi vrai qu'on soit dans un couple classique homosexuel que dans un couple hétérosexuel.
Oui, bien sûr. Alors maintenant, sur le libéralisme. Donc, André Gounel, c'est un peu le pape libéralisme, même si je ne m'en ai peut-être pas bien choisi.
Ouais.
Est-ce que cela vous plaît? Est-ce que cela vous agace? Est-ce que ça vous enferme? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Eh bien, il y aurait une première réflexion à faire sur le mot libéral. Le mot libéral est un mot un peu difficile. Au départ, libéral, ça vient du vocabulaire politique, ça apparaît au 19e, à la fin du 18e et au début du 19e. Et le libéral, c'est celui qui est en faveur des libertés individuelles, celui qui a le souci des libertés personnelles, et qui veut un État qui les protège, qui les respecte et qui les protège. C'est le sens que ça a, par exemple, chez un Benjamin Constant. Pour Benjamin Constant, l'important, c'est pas royalisme, républicain ou empire. L'important, c'est un régime qui respecte les libertés personnelles. Et puis, c'est le sens que ça a au 19e. Et puis, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le libéralisme s'est devenu, en politique, en économie, le laisser-faire, l'absence de réglementation, ce qu'on appelle quelquefois le capitalisme sauvage ou l'ultralibéralisme. Sous l'influence de Adam Smith, c'est d'ailleurs pas tout à fait juste envers Adam Smith, parce qu'il dit aussi autre chose, et que du coup, le mot a changé de sens. C'est frappant d'ailleurs, aux États-Unis, libéral, ça veut dire de gauche,
oui.
Et en France, libéral, ça veut dire de droite. Et alors, de ce côté-là, par exemple, le libéral classique n'est pas du tout contre les réglementations. Au contraire, il veut des réglementations pour que ces réglementations protègent la liberté individuelle, pour qu'il protège contre l'arbitraire du pouvoir ou l'arbitraire du riche. Mais, bon, le mot a changé de sens, ce qui fait que on s'est souvent, on s'est parfois interrogé, est-ce que c'est vraiment le bon mot à employer aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore compris quand on dit ça?
Évangile et liberté.
Alors j'aimais bien cette devise, voilà. Évangile et liberté. Malheureusement, le journal a disparu, mais enfin, le mouvement se continue sous d'autres formes. Évangile et liberté. Alors, en ce sens, j'assume tout à fait le libéralisme. Oui, j'étais un des penseurs, je suis pas le seul. Hein. Je pense à mes amis Laurent Gagnebin, Bernard Raymond, avoir été un des penseurs du libéralisme du dernier tiers du XXe siècle.
Et justement, le fait que vous êtes quand même un des porte-drapeaux et peut-être le plus connu, a dû vous apporter des critiques des fondamentalistes. Je sais qu'il y a eu des réactions de certains qui vous ont reproché un manque de piété ou un manque de foi. Est-ce que ça vous a marqué? Comment avez-vous géré tout ça?
Alors, je dois dire d'abord que dans mon église, l'Église réformée de France, j'ai été tout à fait reçu sans aucune peine, tel que j'étais. J'ai été nommé professeur par un synode à l'époque, à la quasi-unanimité. J'étais membre du Conseil national, jamais j'ai eu un ostracisme. Par contre, dans les milieux dites de droite, évangélicole, évangélicaliste, bon, il y a de tout sous cette étiquette, et je ne veux pas faire des amalgames. Il y a des gens qui sont très bien, qui sont remarquables, qui ont aussi des ouvertures, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions que moi sur tel ou tel point. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fermés. Et il y a ce que j'appellerais cette tendance, cette tentation sectaire, souvent méchante, où on attaque.
Vous avez eu des attaques.
Alors j'ai eu quelques attaques violentes qui m'ont blessé, m'ont meurtri, des attaques souvent un peu calomnieuses. Puis voilà, j'ai essayé de dépasser tout ça et d'essayer de répondre plutôt par la main tendue que par la polémique, même s'il m'arrive de polémiquer. Mais de polémiquer contre les idées, pas de polémiquer contre les gens.
Et comment gérer justement, quels conseils vous pouvez donner à des gens qui sont en butte à la calomnie, à une mauvaise compréhension de leur position, comment gérer ça?
Bon, je crois que d'abord il faut comprendre que il y a derrière celui qui accuse, celui qui condamne, qu'il y a souvent une souffrance, que lui-même il exprime une souffrance, il s'est senti incompris, il s'est senti méprisé, et qu'il y a là quelque chose dont il faut avoir conscience, qu'il se sent, à tort ou à raison, peu importe, il se sent victime plus que combattant. Et ça, il faut essayer de le comprendre et de l'admettre et d'essayer de voir ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il faut essayer de discuter, d'être ouvert autant que possible. Bon, quelquefois de ne pas répondre. D'essayer de maintenir le dialogue chaque fois que c'est possible.
D'accord. Je vous remercie, André. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre discussion.
Entendu.
Merci à tous nos auditeurs. Je vous donne l'adresse mail de cette émission. Un protestant peut en cacher un autre. @radiofmplus.org. Tout en PLUS. Et un protestant peut en cacher un autre, tout attaché. Je répète le mail. Un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. À la semaine prochaine pour la seconde partie de l'entretien avec André Gounel. Merci.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.